Coincée dans ce dîner interminable, Aurore ne s'en sortait pas. Elle avait le sentiment d'être piégée au milieu de tous ces hommes qui parlent fort. Dès l'apéritif, elle s'était dit qu'elle n'y arriverait pas. Elle loucha sur son téléphone. Pas d'appel, pas de message. Elle se sentait loin, très loin de chez elle, à 3 heures de train, plus 1 heure de car, 1 heure d'autoroute allongée les complexes pétrochimiques de la vallée du Rhône, 1 heure à voir défiler des sites industriels aux panaches de fumées étranges, des usines pas si fantomatiques que cela puisqu'elles fumaient encore, mais dans un climat de fin d'époque. Ce soir plus que jamais, elle se sentait paumée, larguée dans le froid pluvieux du centre-ville d'Annonay. Son TGV était parti ce matin à 7 heures de Paris, gare de Lyon, elle s'était levée à 5. C'est tout le problème de vouloir faire des modèles couture avec des nouvelles fibres, d'associer le raffinement des croquis stylés à des tissus techniques. Il faut donner de sa personne et être vigilant. Pour garder un œil sur tout, elle tenait à faire fabriquer au plus près de Paris, uniquement en France. Sur cette règle, elle ne transigerait pas. Plus qu'une affaire de principe, elle voulait garder la main sur ses lignes de production, tout suivre de A à Z, ne pas attendre 3 semaines pour que les marchandises arrivent par conteneur depuis l'autre bout du monde. Il y a surtout qu'humainement, elle ne concevait pas de confier ses modèles en production à des gamines surexploitées qui y travaillent 70 heures par semaine. Fabian aurait beau lui sortir tous les chiffres possibles, elle ne lâcherait jamais sur son intention de départ, fabriquer en France. Jusque-là, il l'avait toujours suivi, il était d'accord sur tout. Mais depuis 6 mois, il tenait le double jeu avec un nouveau partenaire, un distributeur qui avait un pied en Europe et un autre en Asie, et qui l'avait convaincu qu'il était vital de délocaliser. Si bien que maintenant, Fabian la laissait se débrouiller seule lors de ses déplacements, attendant sans doute qu'elle se plante, qu'elle aille à la faute. Comme là, ce soir, à ce dîner au milieu de spécialistes des fibres high-tech, de commerciaux habitués à travailler à la tonne avec des équipementiers de sport ou des fabricants de vêtements industriels, de professionnels ayant une expertise unique dans la fabrication des toiles de parapente et des combinaisons de ski, des couvertures de survie, mais ne sachant pas tisser de fins bustiers ou des gilets cache-cœur. Pourtant c'est ce qu'elle voulait, innover toujours, innover par le choix des matières inédites, oser de nouvelles fibres. Eux, de leur côté, ils y trouveraient leur compte, de travailler sur des petits modèles, de confectionner des pièces fines et élégantes à partir de leur polyester ultramoderne. C'était un challenge, et ça les changerait de leurs grosses commandes mécaniques, de leur production par dizaines de milliers de pièces. D'une certaine façon, ce serait une performance de réaliser des modèles précieux et délicats. D'ailleurs, depuis ce midi, ils l'écoutaient, ils la respectaient, elle sentait bien qu'ils étaient prêts à travailler avec elle. Pas une seconde, elle n'avait douté de leur motivation. Seulement, plus la journée avançait, et plus elle avait l'impression que ce ne serait pas aussi simple. Malgré leur bonne volonté, pas mal de choses leur échappaient. Déjà, ils visualisaient mal les imprimés qu'elle avait en tête, les découpes. Et puis, il y avait surtout qu'ils étaient 6 hommes autour d'elle à cette table, seul leur comptable était une femme, mais bien plus rugueuse qu'eux encore, bien plus méfiante et plus hermétique. En subissant ce dîner qui n'en finissait pas, Aurore se disait qu'ils étaient bruyants, qu'ils parlaient fort. À la limite, tout ça c'était dû à leur activité. Ces gens-là fabriquaient des kilomètres de fibres, certes infimes, mais sur des machines tellement monstrueuses et tonitruantes qu'eux-mêmes le devenaient un peu. Toute la journée, elle n'avait vu que ça, des métiers à tisser qui pèsent des tonnes et font des bruits de marteau-pilon. C'était hallucinant de voir comment, à partir d'un fil de quelques microns, se mettait en œuvre sur plus de 40 000 m² de hangar, une chaîne de production colossale et assourdissante, drainant des bobines de plus de 2 mètres de hauteur depuis des autoclaves fumants. L'illustration parfaite du paradoxe qui était le leur, concilier le lourd et le léger, faire de l'hyper-résistant en tissant de l'infime. En tant que styliste, c'est ce qui l'intéressait. Alors, après toute une journée à avoir essayé de se faire entendre, ce soir elle devait encore lutter contre le bruit. À table, 3 conversations se mélangeaient, des rires explosaient. Elle se répétait qu'elle n'y arriverait pas. Plus que jamais, elle ressentait l'incompréhension de tout styliste face à ces industriels. Cette bonne volonté qu'il faut pour que les deux se rejoignent. Par moments, ça l'épuisait de devoir tout rendre concret. C'est si facile à dessiner un modèle sur une feuille blanche. C'est si docile une robe, tant que ce n'est qu'un croquis sur le papier. Ce n'est qu'après que les ennuis commencent, surtout maintenant qu'elle devait tout affronter seule. Choisir avec certitude, ne pas se tromper, négocier les devis avec chaque fournisseur, monter au front avec chaque client, Ce serait comme ça jusqu'à ce qu'elle craque, qu'elle s'effondre ou qu'elle dise à Fabian « Ok, tu prends le relais, on fabrique en Bulgarie, en Chine, où tu veux, mais je n'en veux plus. » La rançon de son indépendance, c'était cette pression concrète qui pesait physiquement sur ses épaules. Sa marque reposait essentiellement sur elle. Et depuis 6 mois qu'elle endurait ça toute seule, la création, la fabrication, tous les problèmes, il y avait des soirs où elle n'en pouvait plus.
« Et pourquoi vous ne voudriez pas plutôt leur donner des idées à eux ?»«
Pardon ?»«
Oui, vous fourmillez d'idées, madame de Sage. Vous devriez leur en proposer. »«
Je ne vous comprends pas. À qui ?»«
Eh bien, aux fabricants de combinaisons de ski. »« Ou à Airtex. »« Une toile de parapente avec des motifs d'Aurore de Sage, ce serait une sacrée valeur ajoutée. Si ça se trouve, ce sera encore plus léger. »
Ça les fit rire. Tout l'après-midi, elle leur avait parlé de petits tailleurs en sergé stretch, et eux, ils la renvoyaient à leur cœur de cible, des clients qui leur passaient des commandes au kilomètre, l'essence de leur business. S'ils se sentaient si forts, c'est que la fibre technique portait à elle seule tout le secteur du textile en France, et qu'elle triomphait à l'exportation, ce qui n'était plus le cas des usines classiques qui, elles, avaient toutes fermées. Avant le dessert, ils voulurent du fromage. Ils firent tourner le lourd plateau achalandé. Elle avait l'impression que tout concourait à lui faire comprendre qu'elle n'avait rien à faire là, que tout l'accusait, qu'elle aurait plutôt dû être à la maison, déjà parce que ce soir, Richard était à Londres, et aussi parce que Vanny aime de moins en moins rester à l'appartement au-delà de 20 heures. Elle ne voulait plus passer la nuit seule avec les enfants sous prétexte qu'elle avait peur dans ce vieil immeuble à moitié vide en plein Paris. Elle tremblait dans ses vieilles pierres à cause des cambrioleurs, des fantômes, c'était encore pire depuis qu'elle avait vu les corbeaux. Elle disait que ce n'était pas bon de dormir près du nid des corbeaux. Au Sri Lanka, on ne les aime pas. Les corbeaux de jungle, avec leurs pattes longues comme le bec, on les considère comme une peste. Elle affolerait tout l'immeuble si on l'entendait. Il n'y avait que Richard qui arriverait à rire des sornettes de la baby-sitter. Il la relançait sur le sujet, sentant qu'à chaque fois, elle en rajouterait. « C'est pourtant vrai qu'il apporte les maladies. Vous verrez, quand les petits auront la diarrhée. » Hier, entre les angoisses de la baby-sitter, son associé qui se défilait et Richard qui découchait, Aurore avait dû se montrer ferme pour ne pas annuler ce déplacement, pour trouver la force de légitimer son bon droit. Son travail n'était pas moins important que celui de Richard. D'une certaine façon, elle était bien plus indispensable. Lui, il évoluait dans un grand groupe, le genre de structure où les pouvoirs sont dilués au milieu des collaborateurs, alors qu'elle, avec 6 personnes qui dépendaient très directement d'elle, tout reposait sur ses épaules. Chaque fois qu'elle visitait une usine, elle était obligée de partir 24 heures. Mais c'était primordial de visiter les fournisseurs, de voir les tissus sur place, de tout bien expliquer aux fabricants, pour être sûr de se faire comprendre. Après le dessert, il fallut encore prendre un café et des eaux de vie. Il l'avait mise en bout de table, à côté des ingénieurs et du directeur général, et même s'il la traitait comme un client important, il savait pertinemment qu'elle leur proposait de travailler sur des volumes infimes. Alors, pour tirer les prix, elle devait les convaincre. Là, maintenant, avec un alcool de poire à la main, elle tentait de les persuader que ce serait une fierté pour eux d'afficher des modèles « couture » dans leur catalogue. Ça les rehausserait au rang de fournisseurs d'articles de prestige. Dans l'affaire, eux aussi y trouveraient leur compte. Seulement, ils étaient intraitables au niveau des coûts. Même après 2 heures à table, ils restaient fermes. Ils lui parlaient comme ils le faisaient à longueur d'année avec des clients passant des commandes au kilomètre. Ses arguments ne portaient pas. Plus les pousse-cafés s'éternisaient et plus ils prenaient l'ascendant. Elle avait le sentiment que leur rire la dominait. C'était cette même sensation qui l'assaillait depuis 2 mois, cette impression d'être surplombée, et ça l'affolait. Même ce soir, au milieu de cette table, elle avait du mal à camoufler son malaise. On est si petit au regard d'une peur qui n'en finit pas de croître en nous. Parfois, pour peu de prendre du recul, elle sentait bien que tout en elle était fragile, sa société, ses jumeaux, son couple avec ce mari qui voyageait de plus en plus. Richard, qui se hissait toujours plus haut dans la hiérarchie au point de devenir inaccessible, et elle, qui ramait pour faire tourner sa boîte, elle qui ramait pour sortir des salaires et se faire payer des clients, parce qu'elle rame pour remotiver un associé tout en redoutant qu'il lui prépare un sale coup, elle rame pour rassurer les autres tout en continuant de créer des modèles et de tirer sur les coups. Avoir une marque, c'est une belle aventure, mais sans plus la moindre légèreté. Elle sortit fumer une cigarette sur le perron, le regard perdu dans cette grande place plongée dans le noir. Le givre illuminait le sol. En dehors des rares voitures du restaurant, le parking était totalement vide. Là, en plus d'attraper froid, lui vint l'intuition que quelque chose se déréglait dans sa vie, qu'elle passait d'une époque à l'autre, une mauvaise fortune qui prenait soudain les traits de ce décor sinistre. Oui, depuis la rentrée, quelque chose s'inversait, comme s'il fallait payer pour ces années où tout s'était enchaîné idéalement. Elle repensa au chat pendu aux mains de ce colosse, au sourire insupportable de cet homme sûr de sa force, comme eux tous, là. Le souvenir de ce type se mélangea à ses visions d'usine qui lui avaient pilonné le moral toute la journée, comme si à l'avenir sa vie ne serait faite que de trajets désolants, d'humiliations, de parkings vides et de villes désertes, avec chaque fois des gens qui lui parlent de chiffres, de chômage, d'avenir angoissant. « Madame de Sage, on y va ?» Son hôtel était loin. Après qu'ils l'eurent déposé devant, dans ce centre-ville déprimant où les boutiques abandonnées étaient comme autant de dents creuses, elle fuma d'abord une cigarette, puis elle se dirigea vers la porte sans lumière, mais ne retrouva plus le code d'entrée. Et pas de gardien de nuit, personne qui répondait au téléphone. Elle dut demander au soifard qui traînait dans un bistrot fermé de lui trouver le numéro du patron de l'hôtel ou de n'importe qui connaissant ce foutu code. Si bien que là, maintenant, en se posant enfin dans sa chambre, après la peur qu'elle avait eue à l'idée de passer la nuit dehors, elle eut tout d'un coup l'envie d'appeler quelqu'un. Elle ne savait pas qui. Une voix à l'autre bout du fil, qui simplement lui réponde. Une voix qui la rassure. Une voix qui sache trouver les mots, même à minuit passé. Une voix qui lui ferait ce don insensé de tout écouter, et qui à distance saurait l'apaiser, lui dire qu'elle allait bien dormir malgré ce lit froid. Elle songea à appeler Richard, mais ce soir il était à ce showcase qu'il sponsorisait. Elle ne se sentait pas de débarquer dans sa sphère par un coup de fil pour se plaindre, lui demander de l'aide, depuis Londres, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour elle. Parfois, à des petits carrefours inattendus de la vie, on découvre que depuis un bon bout de temps déjà, on avance sur un fil. Depuis des années, on est parti sur sa lancée, sans l'assurance qu'il y ait vraiment quelque chose de solide en dessous. Ni quelqu'un, pas uniquement du vide. Et alors on réalise qu'on en fait plus pour les autres qu'ils n'en font pour nous, que ce sont eux qui attendent tout de nous. Dans ce domaine, les enfants sont voraces, avides, toujours en demande et sans la moindre reconnaissance. Les enfants, après tout, c'est normal de les porter, mais elle pensa aussi à tous les autres, tous ceux face auxquels elle ne devait jamais montrer ses failles parce qu'ils s'y seraient engouffrés, ils ne lui auraient pas fait de cadeau. Ils sont rares ceux qui donnent vraiment, ceux qui écoutent vraiment. Ce soir, Aurore était encore la dernière à partir du bureau. Avant d'y aller, elle voulut encore imprimer les devis de l'usine d'Annonay. Seulement quand elle se rendit dans le local de la bureautique pour les récupérer, elle s'aperçut qu'aucune page n'était sortie de l'imprimante. Les voyants clignotaient tous au rouge. En soulevant le capot, elle vit une feuille coincée tout au fond, maculée d'encre. Elle tira dessus. Sur le fragment déchiré, une unique ligne était imprimée. En travers, on lisait une portion de phrase. « Suggère d'avancer dans la négociation confidentielle dans le cadre de la pré-pack session afin que la période de DB ne dépasse pas 2 mois et que les repreneurs se... » Sous l'acronyme DB, Aurore pensa tout de suite à dépôt de bilan, de même qu'elle pensa tout de suite à Fabien. Mais de dépôt de bilan, il n'en avait jamais été question, et de négociation avec des repreneurs encore moins. Elle était perplexe face à ce bout de papier, ne sachant pas bien si c'était effectivement Fabien qui l'avait tapé, peut-être même que ça n'avait rien à voir avec la société. Elle referma le capot. Mais en attendant que l'imprimante se réinitialise dans des cliquetis étranges, elle chercha sur son smartphone la définition de « pré-pack session » et là, dès la première occurrence, sans s'affoler, elle redouta de comprendre. Avec Fabien, voilà 15 jours qu'il ne s'était pas dit un mot. La semaine dernière, il n'était pas là, et celle d'avant, il se faisait la gueule. Et maintenant, si ce bout de papier les concernait réellement, ce serait pire qu'une trahison. Le plus abject, c'était ce « S » à repreneur. Cela signifierait qu'il s'était allié avec on ne sait qui pour monter une opération et que, depuis des semaines, voire des mois, il tramait un deal dans son dos. Elle ne voulait pas y croire. Comment s'y prendrait-il pour la doubler sans qu'elle s'en rende compte? Et d'abord, est-ce que ça se pouvait vraiment de mystifier sa co-gérante? Elle n'en savait rien. Dans le monde des affaires, beaucoup de choses la dépassaient. Depuis le début, elle faisait confiance, ne lisait jamais complètement les contrats, et surtout, ça n'avait jamais été son rôle. Une fois dans le métro, elle retrouva la même sensation de perdition totale qui l'avait envahie dans sa chambre d'hôtel à Annonay. Cette sensation de parfait abandon. 3 jours après, ce sentiment de rejet ne l'avait pas quittée. Une fois encore, elle aurait aimé qu'on la rassure, appeler quelqu'un, qui que ce soit. Mais elle ne voulait affoler personne. D'autant que c'est humiliant d'appeler au secours, et sous-entendre que sa propre boîte lui échappait, qu'elle n'en maîtrisait pas tout, ce serait presque déshonorant. Heureusement qu'il y avait tout ce monde autour d'elle, toutes ces présences. Vivre à Paris la rassurait. Elle avait la certitude d'être au centre de tout ici, l'assurance d'être en permanence entourée de vie autre, d'entendre parler toutes les langues, de voir des êtres venus du monde entier, des touristes mus par le seul désir de visiter la ville, à pied, à vélo, en autocar et même en rickshaw. Elle se sentait vivante au milieu de ce brassage d'étrangers émerveillés, et de tous les autres qui avaient fait le choix de vivre ici, qui en avaient rêvé de ce Paris, qui s'y étaient accrochés comme à un espoir, ce Paris idéal créé par l'illusion d'une attraction universelle. Et pour elle, c'était vital de se sentir au centre de toutes ces énergies. En termes de mode, Paris est vraiment le centre du monde. C'est de là que tout part. Malgré les crises et les peurs, Paris sera toujours l'emblème de la création, le berceau de la haute couture. Elle se sentait portée par cette effervescence, à l'idée de savoir que les plus grands couturiers, joailliers et maroquiniers venaient ici pour présenter leur nouvelle collection, que c'est à Paris qu'on voyait les défilés les plus prestigieux, les plus belles fashion weeks. Cette vitalité la consolidait. Pourtant ce soir, c'était toujours la peur qui dominait. La peur de ne plus pouvoir créer ses collections un jour, de ne plus faire de défilés, de vivre cette impossibilité comme un bannissement. Sa marque avait déjà connu des problèmes, mais cette fois, ça venait de l'intérieur. Elle ressortit ce bout de papier de sa poche. Déposer le bilan, elle ne l'envisageait pas. Perdre cette marque qui porte son nom, ce serait perdre son identité. Elle ne s'imaginait pas dire à ses 6 employés qu'elle n'y arrivait pas, qu'ils n'y arrivaient plus. Les planter tous, après leur avoir 1000 fois demandé de travailler tard, dire les yeux dans les yeux à Aïcha, Laura, Saïd, Sandrine, Maëva et Ricardo, que cette fois, on arrêtait tout. On en restait là, les lâcher tous. Elle ne le pourrait pas. Dans le métro bondé, elle se dit qu'elle devait absolument parler à Fabien, et qu'elle devait le faire maintenant. Elle laissa sonner, 2 fois de suite. Au 3e appel, elle bascula directement sur sa messagerie. Laisser un message, ça aurait été lui donner un coup d'avance. Or, elle voulait le surprendre, lui parler de but en blanc, de ce bout de papier étrange, pour voir sa réaction. Ce qu'elle voyait, c'est que de toute évidence, il n'y aurait plus jamais l'euphorie des débuts, les nuits blanches, les veilles de défilé, des nuits entières à bosser, mais dans l'allégresse et la musique. Ce qui l'affolait, c'était de songer à l'énergie qu'elle aurait mise pour créer une marque qui porte son nom. Aujourd'hui, elle n'aurait plus la force de refaire tout le parcours. Pour monter une boîte en France, il fallait être soit fou, soit particulièrement bien entouré. Entourée, elle l'était tant qu'elle était porteuse de promesses, mais elle l'avait constaté 1000 fois autour d'elle. Si on se plante, on ne se relève pas. À Paris, l'échec est une peine à vie. Ce n'est jamais facile de regarder les choses en face. Pourtant, ce qu'elle ne se cachait pas, c'est que d'ici à décembre, la banque risquait de ne plus la suivre. Il restait 2 mois pour rattraper le retard et boucler l'exercice, sans quoi ils iraient au défaut de paiement. Un coup de frein projeta les passagers debout les uns contre les autres. Elle s'agrippa à la barre. La rame était bourrée de monde et avançait lentement. Il devait y avoir une manif ou la visite d'un chef d'État. 2 hommes parlaient d'une alerte au colis suspect sur la ligne 4, d'autres disaient que c'était sur la 2. Il disait ça comme si ça avait été un avatar, un simple inconvénient, une bombe. Le résultat, c'est que tout le monde se reportait sur la ligne 1, tout le monde se poussait, se compactait, des corps la collaient sans qu'elle distingue leur visage. Elle sentit qu'elle n'allait pas tarder à être en sueur. Par chance, la ligne 1 est automatique, efficace. Inhumaine, mais efficace. Il n'y a pas de conducteur et donc pas de temps mort, un arrêt, un bip, un départ. C'est d'une productivité radicale. Pareil au cycle millimétré d'une unité de production, elle repensa à ses métiers à tisser géants dont elle ressentait encore le fracas. C'était comme si elle avait été dedans. À chaque arrêt, la station recyclait ses voyageurs, des flots de retardataires dégorgés par les couloirs, tous se mélangeaient, ça venait de partout, ça se bousculait et ça se comprimait, une foule pas heureuse, plus que jamais, elle eut un sentiment de perdition. Elle avait le dos en sueur, les jambes qui flanchaient. Ça la prit comme une fièvre, l'accès irrationnel de l'abandon. Richard avait bien lâché sa précédente femme pour s'installer avec elle, du jour au lendemain, depuis 8 ans elle éprouvait la culpabilité de cette séparation, comme si elle était responsable du chagrin de l'autre, elle se dit qu'un jour, Richard lui ferait la même chose. À moins que ce ne soit plus sournois, qu'il se détache millimètre par millimètre, en étant de moins en moins là, de plus en plus absorbé par sa carrière. La rame arriva à Saint-Paul, et là, elle se laissa porter par l'escalator, elle se laissa hisser comme au sortir de l'enfer. Elle retourna vers l'air libre sans même monter une marche, sans plus d'énergie, le chemisier déboutonné, assailli de pensées toxiques. En rentrant, elle fit le tour des fenêtres depuis la cour. Très peu étaient allumées. Certaines étouffaient une lumière derrière de lourds rideaux. Seules les siennes scintillaient tout en haut, les 6, sans store ni voilage. Les corbeaux n'étaient pas là. Alors elle goûta au silence en faisant quelques pas sur les pavés moussus. Sans rien y voir, elle se pencha vers ses jacinthes qu'elle avait plantées au printemps. Ses hortensias vieux de 3 ans, elle repéra tout ce que ce type avait saccagé. Elle se pencha vers les buissons, elle chercha ses pieds de basilic pour voir s'ils avaient tenu le coup. La sauge s'était redressée, le persil était massacré. Et d'un coup, ils jaillirent comme des assiettes aux baltrapes. Le premier fusa en hurlant à 10 centimètres de son oreille, le second gicla en battant de ses grandes ailes et la heurta en s'éjectant du taillis. La sensation de ses ailes, c'était répugnant. Elle en bascula à la renverse, d'autant que ce soir elle les avait vraiment cru partis. Ou alors, il le faisait exprès. Il se jouait d'elle. Cette fois, elle était à terre, les fesses sur les pavés glacés de sa cour, tellement choquée qu'elle en tremblait.